bien ceci. Pour éviter la gaïole, il a bénéficié d'un crédit pont, de quoi acheter des cougnoles pour sa douce. Ah, ce n'est vraiment pas une clète, celui-là. Eh bien, dans cette phrase se trouvent les nouveaux belgicismes du Robert 2024. Ils sont quatre à intégrer ce célèbre dictionnaire. Comment sont-ils sélectionnés? Des mots miroirs de la société. Bonjour Michel Francard.
Oui, bonjour.
Vous êtes linguiste, c'est vous qui avez sélectionné ces mots typiquement belges. Je suppose que les auditeurs les auront repérés dans ma petite phrase. Alors très rapidement, gaïole, c'est donc un belgicisme qui entre dans le Robert. Gaïole, c'est une petite cage à oiseaux. Vous avez sélectionné ces quatre belgicismes, donc on va rappeler, hein, c'est gaïole, cougnou, crédipon et clète. Comment vous les avez choisis?
Eh bien, ils sont donc issus du dictionnaire des belgicismes, qui a connu une dernière édition en 2021. Donc, ce sont des listes qui sont mises à jour. Et ce dictionnaire des belgicismes se fonde sur l'usage régulier des Bruxellois et des Wallons francophones. Donc, nous prenons à l'intérieur de ce dictionnaire des belgicismes ceux qui sont quand même les plus répandus, les plus usités, de manière à avoir une bonne idée de ce qu'est la variété du français en Belgique.
Voilà, la fréquence, l'usage, la pérennité, ce sont les critères. On va peut-être un petit peu élargir. Est-ce qu'un dictionnaire aujourd'hui, Michel Francard, est encore utile?
Un dictionnaire est utile pour plusieurs raisons. Donc, je pense qu'un certain nombre de gens utilisent le dictionnaire d'abord pour des motifs très immédiats, aller chercher l'orthographe d'un mot, etc. Mais c'est quand même très important qu'on puisse trouver dans un endroit qui fait référence, c'est le cas du petit Robert ou du petit Larousse, bien sûr, pour que l'on puisse trouver des informations sur la langue, que ce soit des informations de sens, ou alors que l'on découvre des mots nouveaux, justement, qui nous viennent parce que la langue évolue et qu'elle en a d'ailleurs besoin de cette évolution pour continuer à être pratiquée, donc pour vivre.
Dans un dictionnaire, il y a environ 100 000 mots, c'est ça?
C'est ce que le petit Robert déclare, 100 000 mots et significations, donc c'est énorme. On parle ici d'un dictionnaire général, donc ce ne sont pas nécessairement des termes techniques qui s'y trouvent. Là, il y a des dictionnaires spécialisés pour le faire.
Le fait donc d'en intégrer de nouveau chaque année, c'est une preuve, vous l'avez dit, que la langue est vivante, que c'est aussi le reflet de notre société.
Oui, parce qu'on crée des mots, notamment parce qu'on a besoin de désigner de nouvelles réalités. Alors, tout cela peut s'appliquer, par exemple, à des mets qui viennent de pays exotiques, etc., que nous n'avons pas, mais ça peut aussi nous parler de notre société d'aujourd'hui. Quand on introduit, comme cette année, un mot comme complosphère, bon, ça fait évidemment référence à toute une série de fonctionnements sociaux, nos relations les uns aux autres, à l'information, bien entendu. Et ce mot, complosphère, s'introduit d'autant plus facilement que complotisme, par exemple, était déjà là depuis quelques années. Alors, on voit bien le type de création, hein, c'est fachosphère qui sert de modèle, et à partir de là, on crée complosphère, bien entendu. Ou un mot comme mégenré, donc attribuer un genre non souhaité à une personne. Genré était déjà là depuis quelques années, donc mégenré est une création à partir de là.
En fait, le dictionnaire évolue par rapport à notre langage et à notre façon de parler. Est-ce qu'elle ne s'appauvrit pas non plus, on a souvent tendance à le dire, avec l'écriture des réseaux sociaux, en se disant finalement qu'on ne parle pas et on n'utilise pas tous les mots que l'on a en notre possession?
Oui, donc la précision que vous donnez en finale est importante. Ce n'est certainement pas la langue qui s'appauvrit, mais c'est éventuellement certains utilisateurs ou utilisatrices qui l'utilisent de manière réduite. Donc c'est certain que la langue a des ressources qui sont infiniment plus développées que celles que nous utilisons au quotidien. Alors le tout est de voir au fond si l'utilisation de cette langue avec des gens qui la partagent, parce que c'est ça qui est important, est-ce qu'elle est optimale? Donc est-ce que nous nous faisons comprendre? Est-ce que nous utilisons les mots dans les sens pour lesquels ils sont reçus, etc.? C'est ça qui est important, c'est au fond ce lien social que crée la langue et qui repose sur des fondements, des codes, si vous voulez, que ce soit de l'orthographe pour de l'écrit ou en général, eh bien, par exemple, sur les emplois des mots tels que décrits dans les dictionnaires. Mais en laissant toujours la porte ouverte à des usages qui peuvent modifier les sens, qui peuvent créer des mots, qui ouvrent les portes pour que la langue continue de vivre, pour que les gens continuent de vivre avec cette langue plutôt.
Voilà, et qui puissent continuer à communiquer. Et à contrario, s'il y a des nouveaux mots, il y en a qui disparaissent peut-être aussi des dictionnaires. Dernière précision, peut-être, Michel Francard, c'est que l'anglais, on sait, est un grand pourvoyeur des mots, c'est connu. Ce qui est plus étonnant, c'est le deuxième pays.
Oui, le deuxième pays, c'est, enfin, la deuxième langue, en tout cas, c'est le japonais. Donc, on constate une tendance qui s'est développée ces dernières années. Alors, bien entendu, elle n'est pas nouvelle, hein. Des mots comme Ikebana et compagnie, même à l'époque récente, on les a bien entendus. Mais aujourd'hui, ça continue et c'est la deuxième langue pourvoyeuse, la troisième étant l'arabe.
Voilà. Ben, merci, Michel Francard, d'avoir été